Chapitre 16. On avait fini de souper et de prendre le thé. Nekhludov s'apprêtait à aborder la Maslova lorsqu'il entendit dans la salle voisine la voix du gardien-chef. Puis un grand silence se fit dans la salle et dans le corridor. La porte s'ouvrit et le gardien-chef entra avec deux gardiens pour procéder à l'appel du soir. Il compta un à un tous les condamnés politiques, lisant leur nom sur une liste, tandis que l'un des gardiens les touchait du doigt. L'appel achevé, le gardien-chef se tourna vers Nekhludov et lui dit, avec un mélange de respect et de familiarité, « Maintenant, prince, vous devez vous en aller. On n'a pas le droit de rester ici après le couvre-feu. » Mais Nekhludov, qui savait ce que ces paroles signifiaient, s'approcha du vieillard et lui glissa dans la main un billet de 3 roubles qu'il tenait tout près. « Allons !» « Je ne peux pas vous forcer. Restez encore un moment. » Le gardien-chef allait sortir lorsqu'entra dans la salle un autre gardien en compagnie d'un prisonnier grand et maigre avec une large tache bleue sur l'œil. « Je viens chercher la petite, » dit le prisonnier. « Ah, voilà papa !» s'écria une légère voix d'enfant et une petite tête blonde apparut derrière le groupe formé par la Rantseva, Marie Pavlovna et Katyusha, qui toutes trois travaillaient à coudre une robe neuve pour la fillette, avec l'étoffe d'un jupon de la Rantseva. « Viens, petite, viens te coucher, » disait doucement le forçat. « Elle se trouve bien ici, » répondit Marie Pavlovna, considérant avec pitié le visage meurtri du pauvre homme. « Laissez-la nous. La dame me fait une robe neuve, une belle robe rouge, papa, » fit l'enfant en montrant à son père l'ouvrage d'Émilie Rantsev. « Veux-tu dormir chez nous ?» lui demanda celle-ci en la caressant. « Je veux bien, mais je veux que papa dorme aussi avec moi. » La Rantseva sourit d'un de ses bons sourires qui la rendait belle. « Ton père est forcé d'aller dormir dans l'autre salle, mais il nous permettra bien de te garder près de nous, n'est-ce pas » dit-elle en se tournant vers le père. « Arrangez-vous comme vous voudrez, » déclara le gardien-chef, et il sortit avec les 3 gardiens. À peine les gardiens étaient-ils sortis que Nabatov s'approcha du père de la petite fille et lui dit en lui posant sa forte main sur l'épaule « Dis donc, frère, est-ce vrai que Karmanov veut changer de nom avec un déporté ?» Le tranquille visage du forçat prit soudain une expression sombre et ses yeux s'abaissèrent. « Nous n'avons entendu parler de rien. Dieu sait quel mensonge on invente, » répondit-il. Puis, sans relever les yeux, « Eh bien, Aniutka, reste donc à faire la princesse avec les belles dames, » ajouta-t-il, et il sortit précipitamment. « Il sait tout. Ce que vous a dit ce macaire est certainement vrai, » dit Nabatov en s'adressant à Nekhludov. Et là-dessus, tous se turent, craignant de voir recommencer les querelles. Simonson, qui de toute la soirée n'avait rien dit et était resté étendu sur sa couchette, se leva tout à coup d'un mouvement décidé. Se frayant un chemin à travers les groupes, il s'approcha de Nekhludov. « Pouvez-vous maintenant m'accorder un instant d'entretien ?»« Mais sans doute, » lui répondit Nekhludov, et il se leva pour le suivre. En voyant Nekhludov se lever, la Maslova rougit. Brusquement, elle détourna la tête. « Voici de quelle affaire j'ai à vous parler, » commença Simonson, après avoir conduit Nekhludov dans la petite antichambre. Cette antichambre était à ce moment toute remplie de l'effrayant vacarme que faisaient les condamnés de droit commun dans le corridor et dans la salle voisine. Nekhludov, assourdi, fronça les sourcils. Mais Simonson, évidemment, n'entendait rien. « Connaissant vos rapports avec Catherine Mikhailovna, poursuivit-il en fixant ses bons yeux ronds droit dans les yeux de Nekhludov, je me crois tenu, mais ayant dit cela, il dut s'interrompre. Parce qu'au même moment, tout contre la porte, 2 voix se mirent à crier ensemble, se disputant. « On te dit que ce n'est pas moi, cochon !» criait l'une d'elles. « Rends-le-moi, sale bête !» criait l'autre. Tout à coup, Marie Pavlovna se montra dans l'antichambre. « Est-ce que cela a le sens commun de venir causer ici » dit-elle. « Entrez plutôt dans notre chambre. Je crois qu'elle est vide. » Elle introduisit Simonson et Nekhludov dans la seconde des 2 salles. Une petite pièce carrée où couchaient les femmes de la section. La pièce, cependant, n'était pas vide. La Bogoudouchovska s'y trouvait étendue sur son lit, la tête tournée contre le mur. Elle a la migraine, elle dort, elle ne vous entendra pas. Moi je m'en vais, dit Marie Pavlovna. Au contraire, tu me feras plaisir en restant, fit Simonson. Je n'ai de secret pour personne, mais surtout je n'en ai pas pour toi. Soit, comme tu voudras, fit Marie Pavlovna, et s'asseyant sur un des lits, avec ses mouvements d'une grâce enfantine, elle s'apprêta à écouter l'entretien des deux hommes. Voici en quoi consiste l'affaire dont je veux vous parler, répéta Simonson. Connaissant vos rapports avec Catherine Mikhailovna, je me crois tenu de vous mettre au courant de mes propres rapports avec elle. Qu'est-ce à dire? Demanda Nekhludov, saisi d'une brusque frayeur. Le fait est que je voudrais me marier avec Catherine Mikhailovna. Vraiment? S'écria Marie Pavlovna, en levant sur Simonson ses beaux yeux bleus. Et j'ai résolu de lui demander si elle consentirait à devenir ma femme, poursuivit Simonson. Que puis-je y faire? Cela ne dépend que d'elle, déclara sèchement Nekhludov. Oui, mais je sais qu'elle ne me répondra pas sans votre permission. Et pourquoi cela? Parce que, aussi longtemps que ne sera pas tranchée la question de vos rapports avec elle, Catherine Mikhailovna ne voudra prendre aucun parti. Pour ce qui me touche, dit Nekhludov, la question est toute tranchée. J'ai voulu faire ce que je croyais mon devoir. Et puis j'ai essayé aussi d'adoucir autant que possible la situation de la Maslova. Mais à aucun prix je ne voudrais m'imposer à elle, ni la gêner dans ses décisions. Sans doute, mais elle ne veut pas de votre sacrifice. Il n'y a là nul sacrifice. Je sais que sa résolution sur ce point est inébranlable. Mais alors, à quoi bon vouloir vous entretenir avec moi? Demanda Nekhludov. Il faut que vous aussi vous reconnaissiez que vous renoncez à vous occuper d'elle. Comment pourrais-je reconnaître que je ne dois pas faire ce que j'estime être mon devoir? La seule chose que je puisse lui dire, c'est que, bien que moi-même je ne sois pas libre vis-à-vis d'elle, elle est tout à fait libre, elle, vis-à-vis de moi. Simonson resta quelques minutes sans répondre, réfléchissant. Soit, reprit-il, je lui dirai cela. Mais au moins ne croyez pas que je sois amoureux d'elle. Je l'aime comme j'aimerais une sœur, une amie, qui aurait beaucoup souffert et que je voudrais consoler. Je ne désire rien d'elle, rien que de pouvoir lui venir en aide. Adoucir sa posie. Malgré l'émotion qui l'étreignait lui-même, Nekhludov ne put s'empêcher de sentir que la voix de Simonson était toute tremblante. Adoucir sa position, reprenait Simonson. Elle ne veut pas accepter votre aide, mais peut-être consentira-t-elle à accepter la mienne. Si elle y consent, je demanderai à être envoyée dans la ville où elle fera sa peine. 4 ans s'est vite passé. Je vivrai près d'elle, et peut-être parviendrai-je à lui rendre la vie moins dure. De nouveau il s'arrêta, tout prêt à sangloter. Que puis-je vous dire, fit Nekhludov? Je suis heureux qu'elle ait trouvé un protecteur tel que vous. Ah, voilà ce que je voulais savoir, s'écria Simonson. Je voulais savoir si, connaissant mes sentiments pour Catherine Mikhailovna, connaissant à quel point je souhaite son bien, vous regarderiez comme un bien pour elle son mariage avec moi. Eh bien oui, répondit Nekhludov d'un ton résolu. C'est à elle seule que je pense. Je désire seulement que cette âme souffrante trouve un peu de repos, dit alors Simonson, en regardant Nekhludov d'un regard si humble, si suppliant, si enfantin, que jamais personne n'aurait pu s'attendre à trouver un tel regard chez un homme d'ordinaire aussi sombre et aussi réservé. Puis, soudain, il se rapprocha de Nekhludov, lui saisit la main, lui sourit timidement et le baisa sur les joues. « Je vais lui dire tout cela, lui dit-il, et il sortit de la chambre. » Chapitre 17. Eh bien, dit Marie Pavlovna quand Simonson fut sorti, « Eh bien, voilà, il est amoureux, follement amoureux. Qui se serait attendu à cela, à ce que Vladimir Simonson devint amoureux ?» Tout comme le plus banal des collégiens. C'est stupéfiant. Et je dois même dire que j'en suis un peu fâché, ajouta-t-elle, à demi sérieusement. Mais elle, Katia, que croyez-vous qu'elle pense de tout cela? Demanda Nekhludov. Elle? et Marie Pavlovna s'arrêta pour réfléchir un instant, comme si elle cherchait à formuler sa réponse le plus clairement possible. Elle, voyez-vous, son passé ne l'empêche pas de garder une des natures les plus droites que je connaisse. Elle a des sentiments plus délicats que nous toutes. Elle vous aime beaucoup. Et elle serait très heureuse de pouvoir vous rendre au moins un service négatif, en vous empêchant de vous embarrasser d'elle. À ses yeux, son mariage avec vous serait une chute affreuse, pire que tout son passé. Et je suis convaincu que, par suite, jamais elle n'y consentira. Votre présence ici est pour elle une cause continue d'épouvante. Mais alors, que me conseillez-vous? De disparaître? Demanda Nekhludov. Marie Pavlovna sourit de son doux sourire. Eh bien, oui, en partie. Et comment pourrais-je disparaître en partie? Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre première question, reprit-elle, cherchant évidemment à détourner l'entretien. Je voulais vous dire que Katia doit certainement s'être rendu compte de cet amour exalté que Simonson éprouve pour elle, bien que lui jamais ne lui en ait parlé. Comme vous savez, je ne m'entends pas beaucoup à ces questions-là, mais j'ai l'impression que ce sentiment n'est rien d'autre que l'amour le plus ordinaire, malgré tous les beaux semblants dont il est revêtu. Vladimir prétend que son amour est tout platonique, qu'il a pour effet de relever en lui l'énergie au lieu de la rabaisser. Mais moi, je sens bien que, au fond, ce n'est rien de tout cela, et que c'est simplement un désir physique, comme celui qui attire Novodvorov vers Lubka Grabets. Et Marie Pavlovna allait s'étendre sur ce thème qui lui était cher, mais Nekhludov l'interrompit. « Enfin, que me conseillez-vous de faire ? » demanda-t-il. « Je crois que vous devriez tout d'abord parler de tout cela avec Katia. S'expliquer à fond, c'est toujours la meilleure méthode. Entendez-vous avec Katia ? Voulez-vous que je vous l'envoie ici ?»« Oui, je vous en prie, » dit Nekhludov. Et Marie Pavlovna sortit. D'étranges sentiments agitaient l'âme de Nekhludov, pendant qu'il restait seul dans la petite chambre, entendant près de lui le souffle régulier de Vera Efremovna, et plus loin le vacarme incessant des condamnés de droit commun. Ce que venait de lui dire Simonson avait pour avantage de l'affranchir de l'obligation qu'il avait prise sur lui, et qui, bien souvent, dans les derniers temps encore, lui avait semblé effrayante et lourde. Et cependant, ce que venait de lui dire Simonson, non seulement lui était désagréable, mais le faisait souffrir comme jamais peut-être il n'avait souffert. Et sa souffrance provenait de mille causes diverses dont lui-même n'avait que vaguement conscience. Elle provenait par exemple de ce que la proposition de Simonson avait enlevé à sa conduite envers Katyusha, le caractère exceptionnel qu'elle avait eu jusqu'alors, à ses propres yeux et aux yeux du monde. Car si un autre homme, et un homme tel que celui-là, n'ayant aucune obligation vis-à-vis de la jeune femme, consentait à unir sa destinée à la sienne, c'était donc que le sacrifice accompli par lui, Nekhludov, n'avait rien eu de si héroïque. Et la souffrance de Nekhludov avait aussi pour cause la simple jalousie. Il s'était tant accoutumé à la pensée d'être aimé de Katyusha que la possibilité qu'elle aimât un autre homme le torturait comme une déception. Et Nekhludov souffrait aussi de voir détruits ses projets et ses plans. Il avait longuement préparé la façon dont il vivrait près de Katyusha, dont il lui tiendrait compagnie et veillerait sur elle jusqu'à l'expiration de sa peine. Si maintenant elle se mariait avec Simonson, sa présence auprès d'elle deviendrait inutile, et il aurait à donner à sa vie un nouvel objet. Ainsi, toutes sortes de tristes pensées se pressaient en lui lorsque la porte s'ouvrit et que Katyusha entra dans la chambre. Le vacarme dans la salle voisine devenait sans cesse plus assourdissant. Évidemment, quelque chose d'anormal devait s'y passer. D'un pas rapide, sans lever les yeux, Katyusha s'avança près de Nekhludov. « Marie Pavlovna m'a dit que vous aviez à me parler, » murmura-t-elle d'un air embarrassé. « Oui, Katyusha, j'ai à te parler. Assieds-toi. Vladimir Ivanovitch vient d'avoir avec moi un entretien à ton sujet. » Elle s'était assise, avait posé ses mains sur ses genoux et était parvenue à se donner une apparence de calme. Mais aussitôt que Nekhludov eut nommé Simonson, elle tressaillit et devint toute rouge. « Et que vous a-t-il dit ? » demanda-t-elle. Il m'a dit qu'il voulait se marier avec toi. » Le visage de la jeune femme se contracta, comme sous l'effet d'une vive souffrance. Mais elle ne dit rien et se contenta de baisser de nouveau les yeux. « Il me demande mon consentement, ou tout au moins mon avis, » reprit Nekhludov. « Et moi je lui ai dit que tout dépendait de toi, que toi seul devais décider. » « Et pourquoi tout cela ? » s'écria-t-elle en fixant sur Nekhludov ce pénétrant regard de ses yeux un peu louches, qui, de tout temps, avait fait sur lui une impression profonde. Tous deux restèrent ainsi une courte minute à se regarder dans les yeux, et ce regard leur apprit plus de choses à l'un et à l'autre que bien les paroles. « C'est toi seul qui dois décider, » répéta Nekhludov. « Qu'ai-je à décider ? » s'écria-t-elle. « Tout est décidé depuis longtemps. » « Non, non, Katyusha, tu dois décider si tu acceptes la proposition de Vladimir Ivanovitch. Est-ce que je puis me marier, moi, un gibier de bagne ? Pourquoi irais-je encore perdre la vie de Vladimir Ivanovitch ? » dit la jeune femme d'une voix frémissante. « Mais, si tu l'aimes, » fit Nekhludov. « Eh, laissez-moi, mieux vaut ne pas parler, » répondit-elle, sur quoi, se levant, elle s'enfuit hors de la chambre. Chapitre 18. Rentrant dans la grande salle, après son entretien avec Katyusha, Nekhludov trouva tout le monde en émoi. Nabatov, qui allait partout, observait tout, s'informait de tout, venait de faire une découverte extrêmement intéressante pour ses compagnons. Il avait découvert sur un mur une inscription provenant du révolutionnaire Petlin, qui avait été condamné 2 ans auparavant aux travaux forcés à perpétuité. On croyait que ce Petlin était déjà depuis longtemps en Sibérie. Et voici que l'inscription laissée par lui sur le mur prouvait qu'il avait fait partie d'un convoi tout récent. L'inscription était rédigée ainsi. « Je suis passé par ici le 17 août 1800 avec un convoi de condamnés de droit commun. Nevierov devait partir avec moi, mais il s'est pendu à Kazan dans un accès de folie. Moi je vais bien, de corps et d'esprit. » et suis plein d'espoir dans l'avenir de notre cause. Petlin. On échangeait les conjectures sur les motifs du retard apporté au départ de Petlin, et surtout sur les motifs du suicide de Nevierov. Seul Kriltsov se taisait, avec une mine recueillie, fixant dans le vide devant lui ses yeux enfiévrés. Mon mari m'a dit que déjà dans la forteresse, Nevierov commençait à voir des fantômes, dit Larantseva. « Oui, un poète, un fantaisiste. Ces gens-là ne supportent pas le régime de la solitude, » déclara Novodvorov d'un ton méprisant. « Moi, quand on m'a mis en cellule, je me suis sévèrement interdit de laisser travailler mon imagination. Je me suis fixé un emploi du temps, que j'ai suivi avec une précision ponctuelle. Aussi ai-je très bien supporté la cellule. » « Supporter la cellule ? La chose ne vaut même pas qu'on s'en vante. » Moi, bien souvent, je me suis senti heureux quand on m'a fourré en cellule, s'écria Nabatov avec un bon sourire, s'efforçant évidemment de faire diversion et de chasser le souffle de tristesse qu'il voyait répandu autour de lui. En liberté, on s'inquiète de tout. On se demande si on ne va pas se faire du tort à soi-même et en faire aux autres, et compromettre le succès de l'œuvre. Tandis que, une fois en cellule, on ne se sent plus responsable de rien. On peut respirer librement. On n'a plus qu'à rester assis et à fumer des cigarettes. Tu as connu intimement Nevierov ? Demanda Marie Pavlovna à Kriltsov, dont le visage s'était de nouveau contracté et dont les mains avaient recommencé à trembler depuis les paroles de Novodvorov. Nevierov, un fantaisiste ? Fit Kriltsov, élevant autant qu'il pouvait sa voix essoufflée. Nevierov, vois-tu, c'était un de ces hommes dont on dit que la terre en produit peu de pareils. C'était un homme admirable, un homme transparent à force de franchise, incapable non seulement de mentir, mais de cacher la moindre de ses pensées, et une peau si fine que la moindre égratignure le blessait jusqu'à l'âme. Tous les nerfs à fleur de peau. Oui, une nature délicate, riche, une belle nature. Ah, celui-là n'était pas comme... Mais à quoi bon parler ? Il se tut un moment, mais on voyait que l'irritation grandissait en lui. Les hommes de l'espèce de Nevierov, reprit-il sur un ton amer et malveillant, se demandent avec angoisse ce qui vaut le mieux. Si mieux vaut instruire d'abord le peuple et ne changer qu'ensuite les formes de sa vie, ou si mieux vaut d'abord changer les formes de sa vie. Ils se demandent par quels moyens ils doivent lutter, si c'est par la propagande pacifique ou par le terrorisme. Et voilà pourquoi on les appelle des fantaisistes. Tandis que ceux qui les appellent ainsi, ceux-là ne se demandent rien. Ils ne discutent rien, ils ne s'inquiètent pas de savoir si leur action ne va pas coûter la vie à des dizaines, des centaines d'hommes, et de quels hommes. Au contraire, que les meilleurs périssent, c'est ce qu'ils désirent. Et en effet, les meilleurs périssent. Herzen disait que la proscription des décembristes avait eu pour effet d'abaisser le niveau social de la Russie. Et ensuite, on a proscrit Herzen, et ceux de son temps. Maintenant, ce sont les Neviérov qu'on excommunie. On ne parviendra pourtant pas à supprimer tout le monde, dit Nabatov. Quelques-uns se trouveront toujours encore là, pour le règlement final. Non, pas un seul ne restera si nous laissons faire ces gens-là, s'écria Kryltsov, de plus en plus furieux. Émilie, donne-moi une cigarette.
Tu n'es pas bien ce soir, lui dit Marie Pavlovna. Je t'en prie, retiens-toi de fumer.
Laisse-moi, répliqua-t-il avec colère, et il alluma une cigarette. Mais dès la première bouffée, il se remit à tousser et à étouffer. Il resta quelques instants à reprendre haleine, puis, s'animant de nouveau, « Ce n'est pas ainsi, non, ce n'est pas ainsi que nous avions conçu l'œuvre. Nous raisonnions, nous cherchions les meilleures méthodes, tandis que... »«
Eux aussi sont pourtant des hommes, » risqua Larantseva.
Non, ce ne sont pas des hommes, ceux qui peuvent agir et penser de cette façon. On devrait les exterminer comme des punaises, les faire sauter. Oui, voilà ce qu'on devrait, parce que... »
Il commençait une nouvelle phrase, lorsque soudain son visage devint d'un rouge vif, en même temps qu'un terrible accès de toux le renversa sur son oreiller, et l'on vit couler de ses lèvres un flot de sang.
Nabatov se précipita dans le corridor pour demander de la neige. Marie Pavlovna, s'approchant de Kryltsov, lui présenta un flacon de gouttes de valériane. Mais lui, les yeux fermés, il repoussa le flacon de sa main décharnée. Et longtemps, il se tint immobile, sans parvenir à rattraper son souffle. Quand enfin la neige et les compresses d'eau froide l'eurent suffisamment remis pour permettre à ses compagnons de le dévêtir et de le coucher, Nekhludov prit congé et sortit dans le corridor où le gardien-chef l'attendait depuis longtemps. Les condamnés de droit commun avaient à présent fini leur vacarme, et la plupart dormaient. Non seulement ils dormaient sur les couchettes et sous les couchettes, et sur le plancher et devant les portes, mais beaucoup d'entre eux, n'ayant point trouvé de place à l'intérieur des salles, s'étaient couchés dans le corridor, nus, avec leurs sacs sous leur tête, et couverts de leurs vêtements en guise de couverture. Les salles et le corridor résonnaient de ronflements. Et partout, sur le sol, s'étalaient d'étranges figures humaines, à demi cachées sous les grands manteaux. Seuls ne dormaient pas quelques forçats qui, dans un recoin du corridor, jouaient aux cartes à la lueur d'une chandelle. Et Nekhludov vit encore un autre homme qui ne dormait pas, un vieux forçat qui, assis tout nu sous la lampe, cherchait des poux dans ses vêtements. En comparaison de la puanteur fétide de ce corridor, Nekhludov eut l'impression d'avoir respiré l'air le plus pur dans la salle réservée aux condamnés politiques. Il finit cependant par se frayer un chemin jusqu'à l'extrémité du corridor, s'avançant avec précaution pour ne pas écraser le dormeur qui barrait le passage. Trois prisonniers, qui sans doute n'avaient pu trouver de place même dans le corridor, s'étaient couchés devant l'entrée, sous le cuveau à ordures. L'un d'eux était un idiot que Nekhludov avait déjà souvent rencontré. Un autre était un petit garçon de 10 ans. Il dormait comme dorment les enfants, les deux mains à plat sous la joue, et du cuveau plein d'excréments, le liquide empesté suintait sur lui. Dans la cour de l'étape, Nekhludov s'arrêta, et, déployant sa poitrine, longtemps il aspira avec délice l'air glacé de la nuit.